France Info.
Et à la une de ce 18 mars, donc, les affiches désormais connues pour le second tour des municipales. Les listes sont déposées avec des désistements de dernière minute à Bordeaux, à Marseille ou encore à Paris. À la une aussi ce matin, un projet de loi pour réduire les délais de jugement des affaires criminelles. Il est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, on va vous le détailler. Et puis un énorme retournement de situation, 2 mois après la victoire du Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Eh bien c'est finalement le Maroc qui est proclamé vainqueur. Explication en fin de journal. Qui est en lice pour le second tour? Cette fois, c'est définitif avec la clôture hier soir des listes pour les municipales avec, nous le disions, des surprises à commencer par Bordeaux. Le troisième homme du premier tour, le centriste Philippe de Sertine, a décidé de se retirer, ce qui dégage la route pour le candidat macroniste Thomas Cazenave qui ambitionne de renverser le maire écologiste Pierre Urmic. Audrey Tison.
Il avait promis de maintenir sa liste citoyenne. Philippe de Sertine ne l'a finalement pas redéposée en préfecture avant l'heure limite. L'économiste explique avoir réfléchi sur la base de son résultat.
Ces 20,2% sont insuffisants. Je dois me rendre à l'évidence. La victoire dimanche prochain n'est pas envisageable. J'ai donc pris la décision de me retirer.
Celui qui se présentait sans le soutien d'aucun parti a-t-il subi des pressions pour se retirer?
Je vous assure que les pressions amicales et non amicales, nous en recevons depuis 6 mois. Le système n'aime pas les candidats hors système. Nous prenons nos responsabilités de citoyens sans en référer à personne.
Et son adversaire écologiste Pierre Urmic y voit la trace de décisions qui se prennent à Paris. Tandis que le candidat de la droite et du centre salue la décision de Philippe de Sertine.
C'est une décision qui l'honore.
Thomas Cazenave espère bien récupérer une bonne partie des électeurs orphelins.
Ils retrouveront dans le projet que nous continuons à défendre beaucoup de sujets que Philippe de Sertine lui-même a défendus dans cette campagne.
De son côté, Philippe de Sertine ne donne aucune consigne de vote.
Merci Audrey Tison. À Paris aussi, la course se resserre. Aurélie Herbemont, service politique de France Info. Au départ, les Parisiens, ils étaient partis pour une quinquagulaire, 5 listes, mais ce sera finalement une triangulaire, 3 listes.
Emmanuel Grégoire, le candidat du PS, sorti largement en tête du premier tour et ce matin en position moins favorable, car Rachida Dati sera la seule candidate à droite. La zémouriste Sarah Knafo se retire pour faire battre la gauche, même si Rachida Dati a refusé toute alliance avec elle. La candidate LR a en revanche fusionné avec les soutiens de Pierre-Yves Bournazel. Elle va donc jouer à fond la carte de l'alternance quand Emmanuel Grégoire est concurrencé sur sa gauche par Sophia Chiqui. Le socialiste a refusé toute fusion avec les insoumis. Il va donc beaucoup insister ces prochains jours sur une alliance des droites qui ne dit pas son nom autour de Rachida Dati pour espérer garder Paris à gauche.
Et pour compléter notre tour de France des désistements, partons pour la deuxième ville de France, Marseille, où il n'y aura finalement que 3 candidats dimanche. L'insoumis Sébastien Delogu, arrivé 4e au premier tour, se retire. Il l'annonce, un retrait face à une possible victoire du Rassemblement National. Le maire sortant de gauche, arrivé en tête, Benoît Payan, avait refusé de fusionner et il appelle désormais au Rassemblement.
Il n'y a aucune élection gagnée d'avance. Je suis face au RN et encore une fois, je veux rappeler aux Marseillaises et aux Marseillais que cette affaire-là, elle n'est pas terminée. Et que c'est dimanche que les choses se feront. Et que c'est dimanche qu'il faut aller voter. Et que c'est tous ensemble. Et que quel que soit notre vote, il faut retourner voter dimanche en masse pour dire non à celles et ceux qui veulent nous diviser. Parce que nous, les Marseillais, nous avons des choses en commun qui sont plus grandes que les choses qui nous divisent. Si dimanche, le Rassemblement National devait l'emporter, qu'est-ce qu'il mettrait en avant? Ce qui nous divise.
Benoît Payan, le maire sortant de Marseille, qui va donc tenter de se faire réélire dimanche prochain, élection municipale, second tour que l'on suivra évidemment sur France Info. Il est 5h04, l'Iran confirme officiellement la mort d'Ali Larijani, l'un des hommes les plus puissants du régime, tué dans une frappe américano-israélienne. L'Iran promet de venger sa mort et poursuit ses frappes dans la région avec de nouvelles explosions entendues au Qatar. Un projectile iranien s'est aussi écrasé à proximité du quartier général de l'armée australienne aux Émirats. Émirats Arabes Unis annonce Canberra. De son côté, Donald Trump s'en prend au pays de l'OTAN. Il a demandé le soutien de ses alliés pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Mais le président américain estime désormais que les États-Unis n'ont finalement pas besoin d'aide. Et il fait le constat que personne ne voulait être impliqué dans cette guerre. Mais Donald Trump en veut aux pays de l'OTAN qui, selon lui, ne rendent pas aux États-Unis ce qu'ils ont obtenu depuis des décennies.
Malgré le fait qu'on les ait énormément aidés, on a des milliers de soldats dans ces pays, dans le monde entier, ils ne veulent pas nous aider, ce qui est incroyable. Mais on n'a pas besoin d'aide. Presque dès le premier jour, on a atteint nos objectifs. On a anéanti leur marine en gros en deux jours. Mais j'ai été surpris de voir que les pays de l'OTAN ne nous aident pas, bien qu'ils soient d'accord sur le fait que c'était une chose très importante à faire. Personne ne nous a dit « vous ne devriez pas le faire ». L'OTAN fait une erreur vraiment stupide. J'ai beaucoup dit que je me demandais si l'OTAN serait là pour nous. Eh bien, c'était un grand test.
Déclaration de Donald Trump, le président américain. Comment juger les viols, les meurtres plus rapidement? Comment réduire les délais interminables de jugement? Ou encore, comment désengorger les tribunaux? Voilà toutes les questions auxquelles un projet de loi compte répondre. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, présente ce matin un texte en Conseil des ministres, Margot Stiff, pour répondre à une situation d'urgence.
Oui, certains hauts magistrats parlent même de submersion. Le nombre de dossiers a quasiment doublé depuis 2018, des cas de violences sexuelles surtout, mais sans que les juridictions aient les moyens de suivre. Résultat, 6000 affaires criminelles sont aujourd'hui bloquées en attente d'un procès, avec une conséquence très concrète. Il faut aujourd'hui 6 ans en moyenne pour juger une affaire de viol, 8 ans pour les meurtres, avec le risque de voir certains suspects de crimes graves être libérés en attendant leur procès.
D'où ce projet de loi donc, Margot, et notamment une mesure qui risque de concentrer les débats, la création d'un plaider coupable en matière criminelle.
Oui, cela existe déjà pour certains délits ou en matière financière. Gérald Darmanin veut l'étendre aux affaires de viol ou de meurtre avec une réduction de peine si l'accusé reconnaît les faits avant même d'être jugé, à condition que la victime soit d'accord. Il y aura toujours une enquête, mais pas de vrai procès, seulement une audience sur une demi-journée, sans expert ni témoin. Ensuite, 3 juges fixent la peine. L'objectif, c'est de diviser drastiquement les délais. 6 mois entre la fin de l'enquête et la condamnation, entre 4 à 6 ans actuellement, au risque d'une justice au rabais, disent certains. Mais face aux critiques, la chancellerie affirme que cela ne concernerait que les dossiers les plus simples, environ 15% des affaires criminelles.
Merci pour ces précisions, Margot Stiff, service police-justice de France Info. C'est un revirement énorme, peut-être même inédit dans l'histoire du foot moderne. 2 mois après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, remportée par le Sénégal face au pays hôte, le Maroc, la CAF, la Confédération Africaine de Football, annonce dans un communiqué que le Maroc est finalement déclaré vainqueur de la compétition sur tapis vert par forfait, le Sénégal gagnant 1-0 sur le terrain et donc déchu de son titre 2 mois après l'avoir célébré en grande pompe après une finale très houleuse. Cette décision, elle a été prise par le jury d'appel de la CAF après les incidents donc qui sont survenus pendant cette finale. Pas ceux en tribune, Fanny Lechevestrier, mais ceux sur le terrain.
Oui, quand la plupart des joueurs sénégalais ont quitté le terrain de longues minutes en protestation à un pénalty accordé au Maroc. Dans son communiqué, le jury d'appel de la Confédération africaine de football stipule que l'équipe a ainsi enfreint l'article 82 du règlement de la CAN, ce qui entraîne d'office son forfait. Mais alors pourquoi cette décision si tardive? Cela fait suite à un nouveau recours déposé par le Maroc. Le dossier a été réexaminé hier au Caire avec toutes les parties entendues en visio. L'histoire est loin d'être fini pour autant. La Fédération royale marocaine de football a déclaré hier soir prendre acte de la décision et précisé qu'elle s'exprimerait plus longuement dans la journée. Dans le même temps, en réaction, la Fédération sénégalaise publie, elle, sur les réseaux sociaux, des vidéos de la célébration du titre à Dakar. De nombreux joueurs sénégalais en ont fait de même, à commencer par le plus célèbre d'entre eux, le capitaine Sadio Mané, avec ce message: le monde connaît les vrais champions.
Merci Fanny Lechevestrier. La Fédération sénégalaise de football dénonce dans un communiqué une décision inique et annonce aussi faire appel devant le tribunal arbitral du sport. Et puis Chelsea n'a vraiment pas fait le poids face au Paris Saint-Germain qui l'emporte 3-0 sur la pelouse des Londoniens au match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens avaient déjà largement emporté lors du match aller et se qualifient donc pour les quarts de finale. On y reviendra en longueur dans le journal de 5h30. Christine Peña, joie, bonheur. C'est une journée printanière qui nous attend.
Oui, avec du soleil qui va s'imposer assez facilement, excepté sur le sud-est. Nous avons un petit retour là, nuageux, faiblement pluvieux, avec des averses dès ce matin sur la Corse et les Alpes du Sud. Et petit à petit, ces nuages poussés par le vent d'Est, là, va envahir la région PACA, puis le Languedoc-Roussillon. Alors, très peu de pluie, finalement. Ce sont surtout de nombreux passages nuageux. Demain, voilà, ça sera juste passé. On a une belle différence encore entre les températures du matin et l'après-midi, avec frais ce matin, mais cet après-midi, belle amplitude. On a parfois plus de 15 degrés de différence, souvent 20 degrés d'ailleurs aujourd'hui entre la Nouvelle-Aquitaine et le Limousin.
Merci beaucoup Christine Peña, 5h10.